France Inter, le 7-9, intervenez.
Vous intervenez comme chaque matin au 01 45 24 7000, avec Pierre d'abord qui nous appelle de Lille. Bonjour.
Bonjour monsieur le Premier Secrétaire.
Bonjour.
Alors trouvez-vous cela normal que Myriam El Khomri se présente à Paris sous l'étiquette de la majorité présidentielle, mais tout en étant soutenue par le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche et d'autres mouvements de gauche?
Écoutez, je l'ai expliqué tout à l'heure, la position du Parti Socialiste, c'est les candidatures autonomes. Nous ne sommes pas dans une majorité présidentielle qui n'existe pas. Et puis je vais vous dire une chose, je pense que les électeurs ne sont pas idiots. Ils savent parfaitement qui est qui, surtout quand on s'appelle Myriam El Khomri. Ils savent parfaitement qui est qui, surtout quand on s'appelle Marisol Touraine. Et ils pourront parfaitement dire, en fonction de cela, quelle est leur position.
Bon, mais sauf qu'il y a on est dans des...
Vous appelez à voter pour elle, quand même.
Bien sûr, mais c'est clair. Myriam El Khomri, elle est soutenue par les socialistes, elle n'est pas soutenue par En Marche. Marisol Touraine, elle est soutenue par les socialistes.
Personne n'est en marche en face d'elle et elle veut voter au Premier ministre.
Cette question-là, elle n'est pas posée au Parti Socialiste, elle est posée à En Marche. Pourquoi certain nombre...
Elle se pose à tous les citoyens des circonscriptions concernées. Évidemment. Ceux qui veulent donner une voix à la majorité présidentielle qui est en train de se constituer avec Emmanuel Macron comme président, il vote Myriam El Khomri à Paris ou il vote Marisol Touraine en Indre-et-Loire.
Mais c'est En Marche qui a pris cette décision, c'est pas le Parti Socialiste.
D'accord, mais...
Ils ont pourquoi... Alors, ça n'a jamais été expliqué. Jamais. Il n'y a jamais eu d'intervention de la part de Monsieur Ferrand disant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas mis de candidat en face d'un certain nombre de responsables socialistes. Et ça peut être étonnant parce qu'on s'aperçoit que pour certains... qui participent, qui sont des amis de Manuel Valls, il y a des candidats En Marche, alors qu'ils partagent la même orientation, et pour d'autres, il n'y en a pas. Donc moi, je me perds en conjecture sur les raisons qui ont conduit à cela.
Benjamin nous appelle de Saint-Ouen, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Cambadélis, vous êtes élu de Paris député depuis 1988, ça fait 29 ans que vous êtes député. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de ne pas se représenter pour un renouvellement des candidats et des députés?
Alors, entre-temps, j'ai été battu, il faut quand même l'intégrer. Et donc, je suis revenu après. Je ne pense pas que le problème, ce soit celui du temps. Le problème, c'est celui de ce que l'on propose. Moi, si on oppose une rénovation qui est due simplement à... ou qui puise ses racines dans une volonté d'être infrapolitique, de ne plus parler des mouvements associatifs, syndicaux ou autres, avec trois lignes, une photo d'Emmanuel Macron, moi je ne pense pas que ça soit une évolution. D'autres candidats dans ma circonscription ont une tradition plus à gauche et défendent une orientation que je trouve plus conforme à la gauche.
Est-ce que ça veut dire que vous ne voterez pas une loi de moralisation de la vie politique qui comprendrait le non-cumul de trois mandats dans le temps?
La limitation dans le temps des mandats, oui.
Je vous ferai remarquer que c'est une résolution que nous avions évoquée au niveau du Parti Socialiste. Mais il n'y a pas rétroactivité des lois, donc je ne vais pas me l'appliquer.
Vous pourriez vous appliquer quelque chose pour lequel vous êtes et que vous êtes prêt à voter.
Je l'ai fait depuis des années sur la question du non-cumul des mandats. Et on ne s'est pas empêché de m'attaquer, vous en avez la preuve, là aujourd'hui.
Denis nous appelle de l'Isère. Bonjour Denis.
Oui, bonjour. Alors je voudrais dire au premier secrétaire du Parti Socialiste que le gouvernement Hollande a trahi plus ou moins les valeurs de la gauche qui s'est vidée de sa substance. Mais pour revenir plus simplement sur l'enjeu des législatives, il me semble que Mélenchon, ayant réuni près de 20% des voix et ayant frôlé le second tour, il me semble plus opportun que le Parti Socialiste songe à se rallier à Mélenchon afin d'être une véritable force d'opposition au gouvernement d'En Marche. Ça tombe sous le sens. Mais bon... on peut être sceptique vu les trahisons qui ont été le lot de tout ce quinquennat, et je pense que Mélenchon est vraiment l'homme de la situation. Il a bousculé nos routines, il a rendu la gauche radicale et conquérante à mes yeux. Donc c'est pas le Parti Socialiste qui est revenu à un score vraiment dérisoire qui correspond au score de Gaston Defferre en 1950. Franchement, 69. Il faudrait que le Parti Socialiste reconsidère que le Rassemblement, c'est la France insoumise.
Merci pour ce point de vue, Denis. Qu'en pensez-vous, Jean-Christophe Cambadélis?
Je pense qu'il y a là une défense illustration de Jean-Luc Mélenchon. Alors je voudrais dire trois choses. La première, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas pour l'alliance des gauches. Je le regrette, mais c'est ainsi. Il est pour substituer au clivage droite-gauche, qui reste encore structurant dans notre pays, un clivage, on va dire, élite-peuple. Aujourd'hui, il ne parle plus de la gauche, il ne parle plus des citoyens, il parle des gens, il parle du peuple, etc. Et son objectif, c'est qu'entre lui et Macron... il n'y est rien. Mais moi, deuxième élément, je pense que c'est de...
Non, c'est pas déjà le cas.
Non, c'est pas le cas, parce que vous savez, ce n'est pas, faut pas juger simplement une élection. Le Parti Socialiste, ça reste quand même 5 régions, 42 conseils départementaux, 1000 villes de plus de 10 000 habitants, et ainsi de suite. C'est une force politique qui existe. Mais deuxième élément, c'est que je crois que l'orientation... développé par Jean-Luc Mélenchon, qui est une orientation de témoignage, qui est une orientation protestataire, ne correspond pas à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Il faut être vigilant, évidemment, nous le serons dans tout le domaine social, mais en même temps, il faut être capable de mettre les mains dans le cambouis et ne pas passer son temps simplement à dénoncer ce que font les autres.
Jean-Luc Mélenchon le conteste, il prétend, il affirme avoir un programme pour gouverner dans les mains, l'avenir en commun, et pas simplement pour protester.
Il a un programme qu'il intitule lui-même révolutionnaire, de rupture, sur la question de nos institutions, sur la sortie de l'Europe, que sais-je encore, il a ce programme-là, mais pour moi, ce n'est pas un programme qui correspond, quand on est de gauche, à ce qui serait nécessaire pour le pays.
Pourquoi ?
Parce que aujourd'hui, cet élément de rupture ne correspond pas à la situation politique, économique et sociale du pays. Je pense qu'il faut rééquilibrer vraisemblablement, ne pas suivre un certain nombre de propositions qui ont été faites par Monsieur Édouard Philippe et par le ministre de l'Économie et des Finances, qu'il faut protéger la sécurité sociale qui visiblement va être attaquée, ainsi de suite. Moi, je reste. Pour une position social-démocrate, c'est-à-dire qu'il soit capable de réformer le pays tout en préservant les équilibres.
Une position social-démocrate, c'est une position qui est aussi éloignée du projet présidentiel de Benoît Hamon. Il était là il y a quelques jours à votre place, Jean-Christophe Cambadélis. Il vous a reproché, en tout cas il a reproché à la direction du PS d'avoir amendé, édulcoré son programme en vue des législatives, d'avoir supprimé les propositions les plus saillantes qu'il avait développées lors de sa campagne.
Écoutez, ce texte a été adopté à l'unanimité, y compris par ses amis. Moi, il n'était pas là. S'il avait été là, j'aurais écouté ce qu'il avait à dire. Mais ses amis ont voté ce texte. C'était adopté à l'unanimité. C'est suffisamment rare pour que on puisse le souligner. Alors qu'il n'y ait pas la totalité de ce qu'il pouvait avancer à la présidentielle, je le conçois. Mais il y a énormément d'éléments, si on veut se pencher sur le texte, de ce qu'il avait pu proposer.
C'est notamment le revenu universel.
Voilà, le revenu universel n'a pas fait le succès escompté. Alors, est-ce qu'il fallait le mettre pour faire simplement plaisir ou continuité avec Benoît Hamon ? Il faut encore travailler sur le sujet. Donc, on a décidé de trouver d'autres formules.
Et un calendrier, notamment aussi sur la sortie du nucléaire plus ambitieux.
Oui, nous sommes moins ambitieux qu'il ne l'était dans son texte, mais ceci est quand même défendu par de nombreux écologistes qui, avec le courant Les Écologistes, participent à notre campagne.
L'entrée de Nicolas Hulot au gouvernement, qu'est-ce que ça vous a fait ? Qu'est-ce que ça vous a procuré comme réaction, Jean-Christophe Cambadélis ?
Je me suis gratté la tête en me demandant pourquoi il l'avait pas fait plus tôt. Parce que quand c'était des gouvernements de gauche, il voulait pas rentrer. Maintenant que c'est un gouvernement avec un premier ministre de droite, il veut rentrer. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais qui va sûrement un jour expliquer.
Il voulait pas quand c'était la droite, il voulait pas quand c'était la gauche. Maintenant que c'est les deux, il veut bien.
C'est une logique. Mais pour l'instant, il a pas dit ça. Un premier ministre de droite, quand même. Mais là, voilà, je vais partager quelque chose avec Jean-Luc Mélenchon. Je crois que ça va pas durer longtemps.
Vous pensez, vous aussi, que ça ne durera pas Mélenchon a dit 6 mois.
Je n'en sais rien, mais entre Areva et Ushuaïa, il va falloir choisir. Et je crois que son choix sera fait.
Areva, c'est Édouard Philippe, vous pensez qu'il est resté fidèle à ses...
Au moins, il voudra en défendre les éléments.
Son ancien employeur, puisqu'il a été directeur des affaires générales d'Areva. Vous ne pensez pas simplement qu'il a pu obtenir des garanties qu'on ne lui a pas fournies avant, lors des précédentes offres d'entrée au gouvernement
Je crois qu'il avait de grandes garanties. Il aurait pu rentrer dans le gouvernement quand on lui a proposé, au moment où on était en train d'organiser la COP21. Ça aurait été quelque chose de praticable pour lui. Il ne l'a pas fait. Il a été conseiller de François Hollande, mais il n'a pas voulu rentrer au gouvernement.
Pensez-vous être bien placé pour tout changer, demande Jules, un auditeur qui nous appelle au standard. La demande de renouvellement ne vous concerne-t-elle pas? On a pas mal d'appels au standard sur le thème du renouvellement qui peut concerner, vous concerner directement, Jean-Christophe Cambadélis, vous et la direction du Parti Socialiste.
Alors, je serai partie prenante du renouvellement, mais je pense que le renouvellement, c'est pas faire table rase. Il faut être capable à la fois de mixer du nouveau et de l'ancien, parce que une formation politique qui n'aurait pas de mémoire et pas d'histoire serait une formation politique qui n'aurait pas d'avenir.
Et alors, donc, vous incarnez la mémoire du...
Donc, je serai dans ce mouvement-là. J'incarne à la fois la mémoire et son présent.
Bon. L'idée de l'élargissement et du fait de mêler des bonnes volontés de droite et de gauche, c'est quelque chose qui, par essence, vous trouvez inapproprié. Vous pensez qu'il ne faut pas effacer ce clivage gauche-droite et qu'il ne faut pas mêler des personnalités d'horizons différents dans un même gouvernement?
Mais c'est une formule. C'est une formule de marketing. Ce n'est pas la réalité. Si vous me dites, est-ce qu'il faut que la droite et la gauche soient ensemble dans la lutte contre le terrorisme, dans la défense de la sécurité des Français, dans la projection de nos armées sur des théâtres d'opération au Mali, etc. Je vous réponds oui. Si vous me dites, il faut que nous soyons sur la position de la droite, sur la question du code du travail, ou sur la question de la réduction des fonctionnaires, je vous réponds non. Et il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des références, et il faut les présenter auprès de l'opposition. Parce que c'est dire que la proposition que l'on a à faire aux Français, elle est juste, parce que il y aurait des hommes et des de droite ou de gauche qui la doublent. Mais on va aller très loin là-dessus. On va interdire tout débat politique.
C'est exactement l'argumentaire, celui que vous développez, qui était développé par ceux qui s'opposaient à la loi El Khomri. En fait, c'est une question de curseur, mais au moment où vous défendiez la loi El Khomri, les frondeurs et la gauche de la gauche disaient exactement ce que vous êtes en train de dire.
Mais quand on défend la loi El Khomri à l'époque, on n'a pas dit c'est une réforme que nous allons concocter avec la droite. Nous avons défendu devant l'opinion le fait que pour nous c'était une réforme de gauche. À un moment donné, il faut
s'expliquer. Vous demandiez à la droite d'être responsable et de,
non,
et
non,
de la
voter. Non, je n'ai jamais demandé à la droite d'être responsable. C'est les journalistes qui disaient que pourquoi vous ne votiez pas cette loi? Mais moi, je dis la chose suivante. Je veux dire, quand on discute des questions économiques et sociales, il faut faire la part des choses. Il faut être capable de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et cela procède, je suis désolé, d'une réflexion sur la nature de notre société. Il est clair que le libéralisme porté par la droite, qui veut la dérégulation pour permettre aux entreprises d'avoir plus de marge de manœuvre, pour faire vite et résumer leurs propos, ce n'est pas la position classique de la gauche qui veut bien de la modernité, mais qui veut aussi la protection des salariés.
Et si sur certains points, à l'avenir, le gouvernement Philippe Macron adopte des mesures plus à gauche que celles du gouvernement Hollande-Valls et...
Ben j'applaudirai.
Par exemple... Par exemple, Nicolas Hulot a confirmé la fermeture de la centrale de Fessenheim.
Bon, enfin, elle avait quand même pas mal avancé.
Oui, mais enfin, et on l'avait pas fait.
Elle avait été... si,
ou l'assurance chômage pour les commerçants. Ou...
Bon, mais tout ce qui... Mais attendez, je vais pas m'opposer à ce qui va dans le sens de ce que nous avons commencé. Je suis plutôt favorable à ce qu'on puisse, dans un certain nombre de domaines, de continuer.
Jean-Christophe Cambadélis, vous restez avec nous dans un instant. Après une pause, on va accueillir, retrouver plutôt Sophie Aram, qui nous a fait de grandes promesses sur l'explication de la télé populaire à notre ami Bernard Guetta, et puis Augustin Trapenard, toujours en direct de Cannes. À tout de suite.